Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et bienvenue dans votre émission Sortez sur Radio Campus. Aujourd'hui avec moi toujours Chloé, notre chère Chloé, salut.
Salut.
Et aujourd'hui on reçoit Kaina Benfifi et Eric Foussard. Ai-je bien prononcé vos deux noms?
Pas de soucis.
Pour moi pareil.
Bon, super. Alors bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors ils sont sapeurs-pompiers et ils viennent nous parler un petit peu... de ce qui se passe dans ce milieu-là. Alors, est-ce que vous pouvez déjà commencer par vous présenter assez succinctement à nos auditeurs?
Laisse la parole aux femmes.
Et moi, je laisse la parole au chef, normalement.
Allez, je commence. Donc, moi, j'ai commencé sapeur-pompier volontaire à Saint-Pierre-des-Corps. Donc, je suis issu du CRU du département, après avoir fait le lycée sur retour et donc l'université. Donc, je suis... Moi aussi, ancien étudiant de l'agglomération Tourangelle. Et puis, après avoir passé le concours d'officier de sapeur-pompier, je suis sapeur-pompier professionnel depuis 1999.
Ok, ah oui, donc beaucoup d'expérience déjà. Okay.
Avec l'âge.
Oui, t'es vieux. Ça se voit pas à la radio.
Non, ça se voit pas du tout.
Donc moi, je suis lieutenant Kaina Benfifi, je suis chef du service développement du volontariat au sein du service départemental d'incendie et de secours d'André-Loire. Et puis ma carrière est un petit peu moins longue que la sienne. J'ai commencé ici en Indre-et-Loire en 2011 et après 15 mois d'école, me voilà d'abord dans une caserne pendant 6 ans à Noraglo et puis maintenant au service développement du volontariat.
Donc deux parcours un petit peu différents dans le sens où vous, Eric, vous avez commencé volontaire.
Alors j'ai commencé effectivement volontaire, qui est une bonne école pour devenir sapeur-pompier professionnel. On découvre le métier par là, sachant que le volontariat, là-bas, je le suis rentré par pure, c'était mon activité, c'est pas du loisir, mais c'est une activité un peu apparente, similaire. L'objectif, c'était effectivement de pouvoir me rendre utile. Donc j'avais passé le diplôme de secourisme au lycée, et donc j'ai intégré comme ça le grand corps des sapeurs-pompiers du département. Et puis après, en y prenant goût, continuant mes études, il y avait une évidence et je voulais devenir sapeur-pompier professionnel.
Et oui. Et vous alors, Kaina, du coup, vous avez fait une école, c'est ça?
Alors, j'ai fait des études d'abord pour pouvoir prétendre au concours de sapeur-pompier professionnel. J'ai fait des études parallèlement à mes études. Moi aussi, j'ai été sapeur-pompier volontaire.
Okay.
Dans le département, le beau département de l'Isère, parallèlement à mes études. J'ai passé le concours, j'ai intégré le département d'Indre-et-Loire qui m'a recruté et qui m'a envoyé pendant 15 mois à l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, pendant laquelle j'ai appris mon métier en fait.
Moi je ne savais même pas qu'il y avait une école du coup comme ça, c'est dingue ça. Alors vous pouvez nous parler un petit peu des concours, tout ça, c'est-à-dire qu'il y a un concours par grade en quelque sorte?
Alors, il y a deux manières. Alors, on va parler un petit peu des pompiers professionnels, si vous le voulez, il n'y a pas de souci. Et après, on parlera beaucoup du volontariat. Pour rentrer professionnel, il y a deux façons de rentrer sapeur-pompier professionnel. Soit on rentre homme du rang, donc avec un concours national, enfin un concours qui est organisé dans les zones de défense, avec comme bagage universitaire pas grand-chose finalement, puisqu'en fait, il n'y a besoin que d'avoir le brevet pour passer ce concours-là. Il n'y en a pas beaucoup des concours de ce type et c'est bien pour ça qu'on attire l'attention de tous les candidats sur le fait que le dernier concours il a eu lieu en 2018 et puis auparavant c'était en 2013. Voilà, donc les places sont chères, les concours sont rares. La deuxième manière de rentrer professionnel, c'est de passer les concours d'officier, donc deux concours d'officier, soit le concours de lieutenant à bac plus 2, soit le concours de capitaine à bac plus 3. On passe un concours qui est également national. Et une fois qu'on a eu le concours, on se fait recruter par un département. Et ensuite, le département nous envoie en formation à l'École nationale. Donc.
D'accord. Et est-ce qu'il y a une réelle différence sur le terrain entre les professionnels du métier et les volontaires?
Alors, vous pouvez pas physiquement nous distinguer. On porte la même tenue, on exerce les mêmes activités. Quand quelqu'un vient vous secourir, il est impossible pour vous de les différencier. En termes de formation, en termes de statut, par contre, effectivement, rien à voir. C'est-à-dire qu'il y en a un pour qui c'est son travail, qui touche une fiche de paye à la fin du mois, qui est soumis aux règles de la fonction publique territoriale, puisque les pompiers professionnels sont des fonctionnaires publics territoriaux. Et puis le pompier volontaire qui lui a un statut très très particulier, effectivement. C'est pas un bénévole, c'est pas un salarié, c'est un volontaire, un sapeur-pompier volontaire. Et ce statut est vraiment très très particulier dans le paysage français.
Et oui, mais donc ils touchent tout de même une indemnité.
Absolument, nos sapeurs-pompiers volontaires ne sont pas bénévoles, ils sont volontaires. Donc ils touchent une indemnité en fonction de, des interventions qu'ils font, du nombre d'interventions, du temps qu'ils passent à notre service. Ils touchent une indemnité, oui.
Et ils ont le choix du volume horaire ?
On demande une certaine disponibilité à nos sapeurs-pompiers volontaires. Et c'est une des premières discussions que les candidats ont avec leur futur chef. Effectivement, ça concerne la disponibilité. Mais aujourd'hui, on est capable de s'adapter à la disponibilité de chacun. C'est-à-dire qu'en fonction de vos activités, en fonction de votre famille, en fonction de plein de choses, on peut adapter la disponibilité. Vous ne partirez en formation que quand vous avez de la disponibilité pour partir en formation. Et vous ne vous mettez d'astreinte que quand vous pouvez, parce qu'évidemment, quand vous êtes au travail, vous travaillez. Voilà. Alors, il y a quelques exceptions. Dans le cadre du travail, on peut parfois partir en intervention dans le cadre de conventions, mais ça, c'est un cas particulier.
Et quelles sont les modalités ? Vous n'acceptez pas tout le monde tout de même ?
Non, nous n'acceptons pas tout le monde. Déjà, il y a des critères d'âge, évidemment. Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, il ne suffit pas d'être jeune et il n'est pas nécessaire d'être jeune. On peut s'engager chez les pompiers en prime engagement sans être passé par la case jeune sapeur-pompier. On peut s'engager à partir de 18 ans et jusqu'à l'âge de 55 ans. Donc, on peut être pompier volontaire jusqu'à 60 ans, en fait. Donc, premier critère, l'âge. Deuxième critère, la santé. C'est-à-dire que oui, on prend des gens qui sont en bonne santé. Et c'est très important pour nous, la santé, parce qu'on la suit tout au long de la carrière. Évidemment, les gens qui n'ont pas la condition physique suffisante et donc la santé suffisante ne sont pas recrutés pour leur sécurité, leur propre sécurité, puis pour celle des autres aussi.
Bien sûr, oui, parce que un souci de santé en intervention, et là c'est...
Quelqu'un qui n'a pas assez de cardio, par exemple, pour courir un petit peu, porter un brancard pendant 10 minutes, le temps de descendre une victime, on va le mettre en danger lui, et puis il va mettre en danger la victime, et puis il va mettre en danger ses collègues, parfois dans d'autres circonstances. Donc évidemment, la santé, c'est primordial.
Alors c'est la santé, mais on ne demande pas d'avoir fait université, une filière STAPS.
Oui, bien sûr.
Donc on demande une bonne condition physique, effectivement, c'est la base, mais on ne demande pas non plus des surhommes. Donc quand on regarde le profil des sapeurs-pompiers, correspond au profil global de la population.
D'accord.
Et donc tout le monde globalement peut devenir sapeur-pompier. C'est pas en soi, il n'y a pas de souci a priori.
Et vous vous entraînez encore
tout le temps, essaye de rester en forme. Mais...
On garde une bonne hygiène de vie, mais comme tout à chacun, j'ai envie de dire, heureusement qu'on tente tous d'avoir une bonne hygiène de vie et une bonne santé, quoi.
Bien sûr. Pour donner un peu envie, est-ce que vous pourriez, par rapport à votre parcours personnel, nous dire les choses qui vous ont poussé et que vous aimez à l'intérieur de votre métier, et pourquoi est-ce que devenir pompier volontaire, du coup, pour d'autres personnes, pourrait être quelque chose de très intéressant dans leur vie ou humainement ?
Voilà, sur l'expérience, effectivement, c'est surtout avant tout pour rendre service. On ne fait pas ça par bon pied pour soi-même. Le plaisir, c'est effectivement, on y reprend quand même du plaisir. Heureusement que ce n'est pas une contrainte trop forte. L'objectif, c'est avant tout de rendre service à la population. Et dans des situations vraiment particulières, donc il faut vraiment quand même avoir ce sens-là, puisque c'est qu'il y a une contrainte de disponibilité où on est obligé de s'absenter, on a des contraintes de formation. Mais au final, on récupère largement ce que l'on donne par le bien que l'on fait autour de nous, par le réconfort et le secours qu'on apporte. Et puis il y a quand même un plaisir personnel, parce qu'on va se former, on utilise du matériel vraiment spécifique, on apprend des techniques de sauvetage particulières, et je pense qu'il y a aussi un plaisir d'apprendre soi-même tout au long de sa carrière. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on commence sapeur et on peut finir officier supérieur de sapeur-pompier en étant également volontaire et en ayant des activités différentes et découvrir plein de choses. Donc on peut se spécialiser dans certains domaines et prendre après de l'expérience et puis pouvoir après diriger des interventions, même en étant sapeur-pompier volontaire, et on en a au quotidien qui s'implique chez nous.
Et oui, vous avez dit vous spécialisez.
Alors effectivement, donc on parlait des formations, il n'y avait pas de différence entre un pompier professionnel et un pompier volontaire lorsqu'on le croise. Le professionnel, comme c'est son métier, a quand même la possibilité, voire l'obligation même, pour être performant, de se former dans des domaines plus spécifiques. Et donc dans le département, on a par exemple des équipes spécialisées en risque subaquatique, on a des plongeurs, d'intervention en milieu périlleux. On a, je vais le citer sans l'oublier, quand même le risque radiologique, puisque avec Lieutenant Ben Fifi, on s'occupe de cette équipe-là. Donc on a une centrale nucléaire sur le département, il y a des services service de médecine nucléaire à l'hôpital, il y a du transport, donc on a, le risque est présent sur le département, donc pour être en mesure d'intervenir, on a cette compétence-là. On peut intervenir sur le risque chimique, où on évoquait en aparté tout à l'heure les tremblements de terre. Effectivement, on a aussi des équipes qui seraient à même d'intervenir sur un sauvetage d'éblément, sur un effondrement de bâtiment.
Et je crois que vous avez oublié le grimpe.
Intervention en milieu périlleux, si je les ai oubliés, effectivement. Donc, c'est les techniques un peu d'alpinisme pour pouvoir intervenir sur des milieux, en façade, par exemple, pour pouvoir dégager une victime, un grutier, par exemple.
Mmh. Eh bien, oui, des choses auxquelles même on penserait pas, nous, citoyens ordinaires.
Voilà, donc on a une formation qui touche le secourisme, avant tout, la lutte contre les feux, enfin, les feux urbains. Donc, on prend l'extinction avec tout ce qu'elle lance, appareil respiratoire, on se protège. Et puis après, même, on peut intervenir sur les feux de forêt, où là, ça nécessite un peu des techniques particulières, du matériel spécifique. Donc, on apprend ces actions-là particulières. Et puis après, il y a tout ce qui est des incarcérations sur les accidents de circulation aussi.
Et pour en revenir à votre question initiale, qui est de savoir ce qu'on y trouve, ben voilà ce qu'on y trouve. On y trouve aussi des compétences particulières. Et oui, vous avez parlé de formation, oui. Ben voilà tout ce qu'on apprend quand on rentre chez les sapeurs-pompiers. En plus de trouver un groupe auquel appartenir, j'ai envie de dire. Voilà. Qui défend des valeurs de la République, etc. La fierté de porter l'uniforme, c'est tout ça les pompiers en fait.
Oui, complètement.
Et on l'apprend, on se forme pour nous, pour les autres, mais aussi pour nous, puisque à titre personnel, c'est toujours utile de savoir faire un massage cardiaque s'il y a un membre de la famille a un souci. Donc on est déjà rassuré, et puis on n'hésite pas à passer le message. Donc on reviendra, je pense, tout à l'heure sur les détecteurs de fumée qui sont maintenant présents dans toutes les habitations. Ben voilà, c'est un message qu'en interne, chaque sapeur-pompier est à même de diffuser.
Mmh, exactement. Merci à vous deux. On se retrouve tout de suite. Restez avec nous et le temps juste d'une courte pause.
Et oui, on est reparti sur les musiques qui nous font plaisir parce qu'on va partir sur un petit parce que ça fait longtemps et que j'aime beaucoup. On part sur Raccoon avec Wash Me. We'll be right back.
retour dans l'émission Sortez, toujours avec Eric et Kaina de la direction départementale des sapeurs-pompiers. Alors Eric, j'avais une question pour vous. Vous touchez principalement à la prévention.
Tout à fait.
Et est-ce que vous pouvez nous décrire un peu une journée, votre journée type en quelque sorte ?
Alors moi je suis à la direction départementale, donc c'est vraiment un travail administratif dans lequel on va trouver plusieurs services qui concernent la partie prévention. Et donc une vision que peut-être que les gens vont pouvoir avoir, c'est la prévention dans les établissements recevant du public, ce qu'on appelle les ERP, et donc dans lesquels il y a un contrôle déjà dès la phase de construction, où le projet d'architecte est étudié, on s'assure qu'il y a assez d'issues de secours, qu'il est prévu qu'il y ait une alarme, que le feu sera confiné avec des cloisons coupe-feu. Donc on a des officiers préventionnistes qui étudient les dossiers déjà dès la phase de construction. Ensuite, on va sur place réceptionner les travaux avec une commission de sécurité. Donc, les sapeurs-pompiers, nous sommes que l'un des membres parmi cette commission. Et nous faisons le contrôle des installations, on fait des essais et on s'assure que tout est conforme pour la sécurité des publics. Donc, ça concerne l'université, les écoles. Donc, dès le plus jeune âge, en maternelle, on apprend les gestes de base, effectivement. Lorsqu'on entend l'alarme qui sonne, voilà, on procède à l'évacuation du bâtiment. L'objectif, effectivement, c'est pour le public, c'est l'évacuation, de se mettre à l'abri en étant hors du bâtiment. Et donc c'est une mission aussi là pour les employeurs ou le personnel qui est présent, d'accompagner, de guider ce public qui découvre un peu les lieux et qui est là pour faire la fête ou profiter. Et donc ce sont les professionnels qui sont sur place, de les guider, ça peut être des employés ou des enseignants, mais ça peut être aussi des agents de sécurité spécialisés. Donc là on est à côté de l'heure tranquille, et des agents de sécurité au quotidien qui sont là pour mener les premières actions et pour agir, donc qui viennent en complément. Donc on fait ce contrôle là au sein dès la phase de construction, et puis ensuite régulièrement à l'ouverture, puis régulièrement tous les 3 ou 5 ans on va visiter tous ces établissements. Donc ça, ce sont les établissements recevant du public dans un premier temps. On fait aussi du contrôle on donne du conseil sur la partie intervention pour préparer nous les interventions dans les milieux industriels, donc les incendies d'installations classées. Donc là, on se prépare, effectivement, on fait des plans d'intervention, on va rencontrer les exploitants, savoir avec eux quels sont les risques présents, donc notamment est-ce qu'il y a des stockages de produits chimiques, est-ce qu'il y a un risque d'explosion, et donc on voit avec eux quelles seraient les modalités d'intervention des sapeurs-pompiers, définir un périmètre de sécurité, l'emplacement des ressources en eau pour pouvoir nous intervenir efficacement. Donc on a un service d'information géographique, de cartographie, qui met en forme nos plans d'intervention, de manière à ce que les secours sur place, les sapeurs-pompiers, puissent disposer d'un outil immédiatement disponible, efficace, pour les guider et prendre les premières actions essentielles. On fait aussi notre mission, on va dire, bien connue, c'est la lutte contre les incendies, effectivement. Et donc là, on s'assure également, en relation avec les mairies, qu'il y a suffisamment d'eau pour nos besoins en cas d'extinction. Donc on dimensionne, on donne des conseils sur l'organisation, l'infrastructure technique pour qu'on puisse nous disposer de ces points d'eau. Donc tout ça, c'est la partie prévention que fait le service. Et puis l'émission comme aujourd'hui, ça fait que ça participe aussi à la partie prévention, on fait de l'information du grand public. Donc on y reviendra tout à l'heure parce que c'est un événement marquant. On sera présent pour les rencontres de la sécurité samedi prochain, donc dans 8 jours à l'heure tranquille. On pourra effectivement expliquer à la population les bons gestes à faire, expliquer comment on travaille au quotidien. Et puis on pourra également aborder la sécurité, alors pour lesquelles on n'est pas directement en charge, mais pour lesquels on concourt, c'est la sécurité dans les bâtiments d'habitation. Et notamment, on parlait du détecteur de fumée que chacun maintenant a l'obligation d'avoir chez lui. Donc on a installé un peu forcé, puis maintenant c'est là, ça vient juste nous embêter quand la pile est usée, que ça se met à sonner. Donc en fait, ça a son utilité, et donc faut l'entretenir, l'installer, le mettre au bon endroit, et donc ça se prépare.
Ça peut aussi sauver des vies, accessoirement.
C'est surtout son objectif. Donc on pourra conseiller les gens qui viendront nous voir sur le stand, notamment dans 8 jours, sur savoir où l'installer. Donc l'objectif, c'est de prévenir les occupants du logement lorsqu'ils seront pendant leur phase de sommeil. Il n'y a pas le chien de garde qui est là pour surveiller et aboyer s'il voit de la fumée. C'est en fait le rôle du détecteur de fumée d'assurer ce rôle, de jouer ce rôle. Donc il sera installé dans les circulations, dans les couloirs, devant les chambres, en priorité à l'accès des chambres. Et comme ça, en cas de départ de feu avec de fumée, le détecteur pourra déclencher une alerte qui pourra réveiller les occupants, qui pourront ensuite évacuer avant d'être intoxiqués par les fumées pendant leur sommeil. Donc c'est un rôle vraiment effectivement important, et on peut nous expliquer et justifier effectivement le rôle prépondérant de ces détecteurs, et effectivement qui sauvent des vies chaque jour.
Bien sûr. Et il y a plusieurs, si c'est une grande maison.
Si il y a une grande maison, donc j'ai la chance d'avoir une grande maison, donc je mets plusieurs détecteurs, ouais, c'est pas un souci. Donc on en préconise effectivement d'en mettre minimum un ou un par niveau. on peut en mettre, plutôt que de mettre devant la chambre, c'est aussi utile de le mettre à l'intérieur de la chambre, notamment lorsqu'on a des enfants en bas âge, et on a aussi cette surveillance qui est efficace, puisque l'enfant ne saura, s'il est trop jeune, ne saura pas ou sera affolé, et donc ça va pouvoir alerter tous les parents pour qu'ils puissent après eux-mêmes prendre en charge l'évacuation, et ça se prépare également. Donc c'est former les enfants sur le rôle du détecteur de fumée, leur faire écouter, puisque le signal est particulier, donc leur faire identifier le son, et puis en cas de déclenchement, savoir quelle serait pour eux l'action à réaliser, qui est l'évacuation, donc voir avec eux le cheminement d'évacuation, le point où on va se retrouver tous dehors à l'abri, un point de rassemblement à l'extérieur du bâtiment, prévoir également l'alerte de secours, puisque c'est bien d'évacuer, maintenant il faudra lutter contre l'incendie, et éventuellement pour nous réaliser des sauvetages si des personnes sont coincées à l'intérieur, donc il y a un rôle important sur ce délai d'alerte. Et ensuite, effectivement, pour nous, c'est nous accueillir, nous guider pour qu'on sache quelles seront les actions prioritaires à mener ensuite.
Donc, Kaina, vous aviez quelque chose à rajouter ?
Que moi, j'ai qu'un seul détecteur de fumée chez moi parce que j'ai un tout petit appartement. Voilà, dans le couloir.
Moi, c'est pareil.
Il est dans le couloir.
Yes, oui, le couloir, du coup, ça m'a l'air d'être une très bonne idée. Oui. Enfin, de toute façon, je ne vais pas remettre en cause ce qui a été créé.
Non, le couloir, c'est la bonne idée du jour. Voilà. Et si vous avez plus de détecteurs de fumée que un, vous pouvez équiper les autres pièces, en fait.
Tout à fait.
Mm. Et oui.
Alors, on les met quand on est dans son appartement, dans sa maison, donc on le met effectivement chez soi. Par contre, lorsqu'on est dans un immeuble, l'objectif, c'est bien de l'avoir chez soi et pas dans le couloir. Et donc, d'ailleurs, la réglementation l'interdit, puisque s'il détecte de la fumée dans le couloir, c'est que le cheminement d'évacuation pour rejoindre les escaliers sera en fumée, donc on prend plus un danger en fait s'il y a un détecteur dans le couloir. Donc vaut mieux, on a le détecteur chez soi, s'il se déclenche, on évacue dans la circulation dans le couloir où on sera à l'abri. Par contre, si le feu est présent à l'extérieur du logement et que le couloir est en fumée, vaut mieux rester chez soi à l'abri, puisque les portes sont résistantes au feu, se confiner, éventuellement se mettre un linge humide en bas de la porte pour éviter que la fumée ne puisse rentrer dans l'appartement, et appeler les secours et se manifester aux fenêtres pour qu'on puisse, nous, prendre en compte la présence d'occupants dans les logements et venir les secourir rapidement.
Oui. Et je me demandais, dans le futur, est-ce que, quelque part, ces instruments, du coup, seraient connectés en direct à votre...
À nos services.
À vos services.
Ça peut s'en
aller. On a des bonnes idées.
On a déjà des...
Deuxième info pratique du jour.
Il existe déjà des détecteurs de fumée. Alors déjà, il faut qu'ils soient normalisés. Donc il faut qu'ils aient tous la conformité à la norme. Donc normalement, ce sont les seuls qui sont vendus en France, de toute façon. Après, certains ont en plus la conformité à la norme française, qui va un peu au-delà, notamment en prévoyant des contrôles de qualité au cours de la fabrication. Donc on ne peut que suggérer ces modèles-là. Surtout, on va dire, privilégier des modèles qui ont une durée de vie, une autonomie suffisante. Donc maintenant, ils font des systèmes avec des piles au lithium qui ont une durée de vie de 5 ou 10 ans. Alors ça évite d'avoir la contrainte, puisque la problématique que vous évoquez d'appareils connectés, c'est qu'il faut qu'on soit, nous, appelé par l'appareil s'il détecte une fumée. Donc c'est déjà s'assurer que la batterie est en bon état de marche. Et donc c'est là les détecteurs, la réglementation datée de 2015, la limite d'installation. Donc maintenant on arrive sur la période où les détecteurs commencent à avoir leur pile usée. Et on est régulièrement appelé par un voisin qui dit « j'entends une alarme chez mon voisin, il y a le feu ». On se déplace, en fait c'est uniquement le bip de du détecteur parce que la pile est usée.
C'est chaud.
Donc après, il existe déjà des détecteurs effectivement connectés qui actuellement déclenchent l'information sur le smartphone du propriétaire. Donc après, pourquoi pas avoir une technologie où, dans l'absolu, on pourrait être prévenu. Par contre, on n'est pas là, nous, pour venir changer les piles. Donc c'est... Voilà.
Bien sûr.
Il faut qu'il y ait aussi une discipline de la population et qu'on soit appelé si ça justifie. Donc il y a une part des choses à faire et une fiabilisation. Donc après, ça peut être des systèmes redondants. Enfin, tout est imaginable pour effectivement gagner du temps, puisque c'est le temps qui est important sur le développement d'incendies.
Et puis, si je peux me permettre aussi, parfois en fonction de la localisation du DAF, qui peut être mal placé, les gens pensent parfois que dans la cuisine, c'est une bonne idée de le mettre. Sauf que dans la cuisine, vous pensez bien qu'il sonne souvent.
Bah
donc
oui,
c'est à chaque fois
pâtes,
qu'il sonne. Voilà. Voilà.
Entre autres, je veux dire.
Entre autres. Vous mangez beaucoup de pâtes, c'est ça?
Oui, énormément. J'ai un petit appartement et je mange des pâtes.
Le cliché que tu es, c'est terrible.
Donc oui, si on est alerté à chaque fois par un détecteur, vous pensez bien qu'il y a des enjeux et des problématiques qui sont un petit peu plus... on a l'impression que la connexion, c'est la solution et puis la rapidité d'intervention. Mais en fait, parfois, ça peut...
Exactement.
Il y a des enjeux.
C'est bien
qui...
vrai.
Donc voilà.
Donc voilà, on va dire à la population, c'est vérifier régulièrement vos détecteurs de fumée, changer les piles. Et par contre, n'hésitez pas à nous appeler si vous avez le moindre doute.
Il y a le feu.
Mais à contrario, si c'est pas grand chose, ou enfin si c'est pas justifié, ne nous appelez pas pour qu'on soit disponible pour les réelles urgences.
Oui, c'est ça, on n'appelle pas les pompiers pour rien. Vous avez même sûrement des exemples, je sais pas si vous voulez les partager, mais de personnes un peu comme ça me fait penser aux urgences, quoi, qui viennent alors que c'est pas un état d'urgence réel.
On appelait régulièrement, ou pour une personne qui a perdu ses clés, donc les sapeurs-pompiers, bah. On peut forcer effectivement un appartement, mais si on vient pour casser la porte, c'est pas intéressant.
Oui, bien sûr.
Donc voilà, c'est vraiment une notion d'urgence qui doit être identifiée. Et puis après, on fait aussi quand même de l'assistance aux personnes. Donc on intervient régulièrement à domicile pour des urgences identifiées. Donc là, la demande du SAMU, si c'est nécessaire pour effectivement quelque chose vraiment d'urgent. On vient pas forcément pour recoucher la personne qui a du mal à dormir.
Bien sûr. Vous nous avez beaucoup rassuré quant au... aux stratégies employées dans les trucs publics.
C'est quoi ? C'est services publics.
Les établissements
publics. Établissements publics, exactement. Est-ce que, à part l'incendie, il y a d'autres thèmes ou risques auxquels vous faites attention ?
En dehors de l'incendie ?
En dehors de l'incendie.
Ah bah disons qu'on a on intervient sur les incendies puisqu'on est les seuls services compétents dans ce domaine-là. On concourt également à la partie secours à personne puisque c'est même devenu maintenant notre activité principale avec plus de 75% de nos interventions qui relèvent du secours à personne. Alors maintenant, ce qu'on essaie justement de limiter, c'est bien limiter au cas d'urgence. Et donc, c'est un peu là-dessus qu'on se concentre et qu'on essaie de faire passer le message que notre intervention se limite à ça. Et notre mission, c'est également la protection des personnes, on vient de le citer, mais également des biens et de l'environnement. Donc les biens passent pas également par donc, la lutte contre l'incendie notamment, mais ça va également sur des interventions régulièrement lorsqu'il y a des événements climatiques, donc phénomènes de tempête avec des voitures qui seraient arrachées, des inondations. Donc là, effectivement, on intervient pour effectivement protéger, donc après les personnes, de protéger les biens. Donc, ces interventions régulières qui sont plus liées au caractère météo de la situation. Et puis également, protection de l'environnement. Donc, on fait de la lutte contre les pollutions. Donc, on n'est pas là pour dépolluer un terrain. Mais par contre, s'il y a un accident, un sinistre, un poids lourd qui se renverserait, on fait les premières mesures de protection pour éviter la dispersion du polluant. Et puis, également, assurer la protection s'il y a un risque toxique ou risque d'explosion.
Vous faites du coup de la... Est-ce que vous faites de la prévention aussi plus ciblé vraiment sur les citoyens, par exemple vraiment intervenir même par exemple dans des lycées ou des choses comme ça pour montrer aux gens par exemple les premiers secours, c'est-à-dire un camarade qui voilà une crise cardiaque ou quelque chose.
Alors, votre question, en fait, elle est un petit peu plus large que... Elle est un peu moins simpliste que ce que... Voilà, alors, du coup, je vais répondre en deux temps. Oui, le service départemental d'incendie et de secours va rencontrer certains types de populations, notamment les jeunes, dans les collèges, au travers d'interventions citoyennes, pour faire de l'éducation citoyenne, pour leur apprendre à quels sont les numéros à appeler, pour faire... leur expliquer comment le SDIS fonctionne, etc. Double enjeu pour nous. Le premier, c'est évidemment d'éduquer les jeunes à la citoyenneté, à faire d'eux des bons citoyens, des bons républicains. Et le deuxième enjeu, c'est de, et pour nous clairement, c'est intéressé, je ne vous le cache pas, c'est d'en faire, pourquoi pas, des jeunes sapeurs-pompiers. Parce que c'est un vivier de recrutement pour nous qui est extrêmement intéressant. En Indre-et-Loire, on est à plus de 700 jeunes sapeurs-pompiers dans les différentes sections qui couvrent tout le département. Donc oui, ces jeunes sapeurs-pompiers, à l'issue de leurs 4 années de formation, rentreront dans nos effectifs pour partir en intervention. À partir du moment où ils ont le brevet national de jeunes sapeurs-pompiers, ils peuvent partir pratiquement à l'âge de 16-17 ans. Donc oui, pour nous, c'est un vivier très intéressant. Donc oui, on ne met pas ça de côté. On met pas ça de côté pour les collèges. Concernant la formation aux gestes de premier secours, je crois que c'est ça en fait l'objet de votre question aussi. La formation aux gestes de premier secours, nous, le SDIS, on peut faire des initiations. D'ailleurs, il y en aura une qui sera proposée sur la commune de Marais fin octobre, le 26 octobre, de 10h à 12h30 à peu près. Donc c'est une initiation, geste qui sauve, les choses les plus importantes à savoir. Initiation à l'issue de laquelle les participants repartent avec un petit diplôme. le vrai diplôme officiel, qui s'appelle le PS1, Prévention et Secours Civique de niveau 1, il est proposé uniquement par des associations agréées de sécurité civile. Donc il y en a plusieurs, la 2F2S, la Croix-Rouge, ou le SS37, qui est composé de sapeurs-pompiers. Plusieurs types d'associations qui proposent ces formations plus larges, mais pas le SDIS en tant que tel.
D'accord.
Voilà.
Et c'est vrai que, en quelque sorte, tous les gens du territoire seraient sapeurs-pompiers. Là serait la solution pour réellement encadrer un secours global de toutes les populations. Voilà.
C'est ce que je disais, vous n'avez que des bonnes idées. Donc si vous arrivez à convaincre tout le monde, moi je prends et je pense que j'aurai droit à une belle augmentation vu que c'est mon travail en fait de convaincre les gens. Donc oui, ce serait très bien. Aujourd'hui, notre modèle de sécurité civile français est basé sur le volontariat justement. Oui. 195 000 sapeurs-pompiers volontaires en France, 2000 sapeurs-pompiers volontaires en Indre-et-Loire qui réalisent à la louche pratiquement 80% de des interventions. Donc oui, oui, clairement, c'est notre modèle de sécurité civile en France. En Allemagne, par exemple, il y a encore plus de sapeurs-pompiers volontaires. Leur système est un petit peu différent, mais il y a aussi des pays où il y en a beaucoup moins. Et moi, je le dis, et j'en suis convaincue, le volontariat, c'est une des raisons qui fait qu'en France, on a des secours de qualité. Et vous, la population, vous recevez un secours de qualité, de proximité. En tout point du département, en 15 minutes, on peut avoir un secours. Voilà, grâce au volontariat.
Oui, c'est intéressant, c'était l'une de mes questions. Du coup, vous avez des zones et donc maximum 15 minutes pour venir sur les zones. Du coup.
Alors, on a un document qui s'appelle le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques. Vous le connaissez bien, je crois, commandant.
Oui, oui, ça, j'ai travaillé un peu sur le sujet.
Un petit peu sur le sujet, il était pilote du projet, c'est pour ça que je dis ça. Qui détermine les risques auxquels les sapeurs-pompiers doivent faire face. Et en face de ça, effectivement, on met des moyens. Et des moyens, c'est quoi? C'est des casernes. Donc, il y en a 70 en Indre-et-Loire. Ouais. 70 casernes, 64 casernes qui ne sont composées uniquement que de sapeurs-pompiers volontaires, justement. On n'a que 6 centres de secours en Indre-et-Loire où on trouve des sapeurs-pompiers professionnels. Tours-Centre, Nord-Aglo, Tours-Nord, Jouy-les-Tours, Loches-Chinon et Amboise. Tout le reste, sur tout le reste du département, il n'y a que des sapeurs-pompiers volontaires. Donc oui, on a un maillage territorial assez intéressant pour pouvoir offrir une réponse adaptée. En 15 minutes, vous me corrigez, commandant, si 20 minutes peut-être.
Ça, suivant la nature de l'intervention, puisqu'après un engin secours à personne, on va mobiliser 3 sapeurs-pompiers, pourra partir plus rapidement qu'un engin incendie, où il faudra mobiliser 6 à 8 sapeurs-pompiers. Donc il y a différents paramètres qui sont pris en compte. L'objectif, effectivement, nous, c'est au quotidien, notamment grâce au logiciel de gestion de l'alerte, de pouvoir solliciter le centre de secours le plus proche, et pouvoir l'engager immédiatement. Donc on a une vision en temps réel de l'ensemble des sapeurs-pompiers disponibles sur le département. Donc, je ne sais pas, on est vendredi, il est 17h30, il y a peut-être 450 sapeurs-pompiers qui sont actuellement disponibles pour intervenir sur le département. Et puis ce soir à 19h, les sapeurs-pompiers volontaires qui travaillent seront devenus disponibles et on va monter peut-être à plus de 700 sapeurs-pompiers mobilisables instantanément sur l'ensemble du département. Et donc il y a du personnel, une force de frappe importante et on parlait effectivement de la polyvalence des missions, mais aussi de la variété de notre personnel. On demande des compétences particulières, physiques, on l'a évoqué. Il y a aussi le fait d'être une femme n'est pas un frein à devenir sapeur-pompier volontaire. Donc, Aïna, on a un très bel exemple. On recrute également des sapeurs-pompiers féminins. Ce n'est pas du tout une problématique. Nos casernes sont adaptées pour. Donc, on a des liens des vestiaires séparés. On a même une nouveauté, c'est qu'on va faire évoluer les tenues d'intervention pour qu'elles soient adaptées à la morphologie des femmes. Donc, on essaie de vraiment penser à tout.
Okay. Oui, c'est vrai, le costume d'ailleurs, c'est rigolo, j'y pensais, mais le fait, est-ce que ça vous donne un espèce de courage?
Alors un courage, c'est vrai qu'on a quand on porte l'uniforme, il y a l'aspect prestige quand même qui est présent, il y a aussi représentation du service public, donc on se doit quand on se porte l'uniforme d'avoir un comportement irréprochable, et donc c'est aussi des notions qu'on inculque à nos jeunes sapeurs-pompiers, puisqu'ils également portent la tenue lorsqu'ils sont en activité, et on leur apprend effectivement cet aspect-là. Alors après, on porte un uniforme, c'est pas non plus une armure, donc ça nous protège pas de tout. Donc faut aussi savoir que nos équipements, qui sont des équipements de protection individuelle, sont là pour nous protéger, mais aussi savoir garder de la distance, la tête froide et avoir le bon jugement et ne pas se croire invincible.
Et plus que le port de la tenue, c'est en fait quand on enfile la tenue, on intègre cette équipe en fait, on intègre une équipe et c'est l'équipe qui est forte en fait. Oui, et c'est l'équipe qui nous donne du courage. C'est pas tant l'uniforme que ce qu'il représente et le tout qu'on est et l'équipe qu'on est quand on est ensemble.
Et oui, ça me fait... Enfin, je sais pas si je dois en parler tout ça, mais le fond de ma pensée, c'était... Enfin, je reviens sur un sujet, bon, mais le Bataclan, en fait, où ces gens, du coup, qui n'avaient pas non plus l'uniforme, une espèce d'énergie qui a régi un peu tout le monde, a aidé tout le monde. Et en fait, c'est ça que je me disais, dans le sens où tout le monde est sapeur-pompier quelque part, et dans des moments un peu profonds comme ça, du coup, on le revoit. Mais ce qui est drôle, c'est que du coup, vous, en tant que... Enfin, vous portez l'uniforme, et vous vous dites, voilà, mon service citoyen est là, en fait. C'est à moi de faire des choses.
Mais c'est ça. Et en fait, vous parlez de situation de crise. Et nous, notre quotidien, c'est d'intervenir sur les situations de crise. Mmh. Donc oui, vous, enfin, au Bataclan, ils l'ont vécu dans la vie civile. Ils ont vécu un moment de crise qui a fait d'eux une équipe, qui les a soudés, finalement. Et qui, l'objectif était commun à tous. Mais nous, c'est clair, c'est pareil pour nous aussi. L'objectif commun, on a tous le même. C'est porter secours à la population de différentes manières. Voilà. Dans nos services, tous les jours, on porte secours à la population de manière très théorique. Les collègues qui sont dans les casernes portent secours de manière pratique, ils sont sur le terrain. Mais oui, c'est ça qui nous anime. Et c'est pour ça qu'on est courageux quand on est ensemble.
Oui, oui. Et donc, pouvez-vous nous parler des risques pris par les sapeurs-pompiers en intervention, qu'ils soient physiques ou psychologiques?
Alors effectivement, des risques, je parle à l'instant des équipements de protection individuelle. Donc les fumées effectivement d'incendie, maintenant avec les matériaux plastiques notamment, sont toxiques, oui. Donc on a des moyens de se protéger. Donc les appareils de protection respiratoire, les appareils isolants, les bouteilles d'air qu'on porte dans le dos. Donc le sapeur-pompier, on essaye de prendre en compte tous les phénomènes pour lesquels on peut se protéger. Donc le risque notamment de chaleur avec les thunes d'intervention, le risque de se blesser, de se couper. Donc on porte des gants, on a un casque pour se protéger. Et puis après, c'est la formation qu'on a sur le savoir se positionner. Par exemple, éviter d'être face à une fenêtre s'il y a un risque d'explosion pour pas que le mur nous fasse écran. On peut estimer des distances de sécurité. Donc c'est l'ensemble de la formation qui apprend aux sapeurs-pompiers à avoir le bon comportement à adopter. Et donc ça, il y a l'aspect théorique qu'on met en pratique au sein de notre centre de formation, notamment à Ballon-Miret, où on a une maison à feu. On peut entraîner le sapeur-pompier dans des situations proches de la réalité, mais en sécurité. Donc le sapeur-pompier, lorsqu'il intervient, a déjà été confronté à un incendie, a déjà tenu la lance, et les contraintes après, des contraintes de port de l'appareil respiratoire, des contraintes de charge, de chaleur, il s'en rend compte, il l'apprécie, et il apprend comme ça aussi à connaître ses limites, pour ne pas effectivement de prendre de risques inutiles pour lui et pour l'ensemble de l'équipe.
Et donc est-ce que vous pensez que vous êtes soutenu assez matériellement, en gros, pour pouvoir faire face à toutes les façons? C'est-à-dire, en fait, l'objet de ma question, c'était qu'il y a eu quand même des mouvements de grève dernièrement, et est-ce qu'on peut revenir dessus? Est-ce que ça vous va un petit peu?
Les mouvements de grève que vous évoquiez, c'est effectivement, le sapeur-pompier a volonté de faire toujours au mieux. Donc là actuellement, donc on cherche en permanence à avoir le matériel le plus performant, le plus adapté. Donc après, c'est la part des choses entre les ressources financières de nos financeurs, donc le département, les communes, et puis l'intérêt de la population. Et donc on sait qu'en journée, par exemple, on a des sapeurs-pompiers volontaires qui sont au travail, on a moins de disponibilité, donc on a besoin de recourir aux sapeurs-pompiers professionnels. Donc l'idée, c'est qu'on a toujours assuré les interventions, heureusement, et on n'a pas eu de soucis de ce côté-là, mais on se rend compte effectivement que avec l'augmentation de l'activité opérationnelle, il y a des fois des appels qui sont un peu abusifs, donc c'est bien aussi sensibiliser la population sur les missions et le rôle qu'ils ont à jouer, et donc c'est plus ce message-là aussi qu'on veut faire passer à la population, que la population aussi a un rôle à jouer.
Ok, c'est très bien dit du coup pour... Kaina, est-ce que vous voulez revenir un petit peu sur le volontariat? On n'a peut-être pas assez parlé ou...
Non, écoutez, j'ai envie de dire que le volontariat en Indre-et-Loire, il est cohérent, il est intéressant. On a un certain nombre de sapeurs-pompiers volontaires au sein du SDIS, qu'on est toujours à la recherche de pompiers volontaires, notamment en zone rurale. Je ne sais pas si on a assez insisté dessus. Voilà, sur les grosses agglos, on a, parce que notre organisation fait que effectivement, on a des sapeurs-pompiers professionnels. Je vous l'expliquais tout à l'heure sur l'agglomération, on en a moins besoin que dans les communes plus rurales et dans les territoires. Donc, si vous êtes intéressé, j'ai envie de dire, il faut se rapprocher de la caserne la plus proche. Voilà. Et ensuite, le processus de recrutement pourra commencer. Si vous êtes en bonne santé, on l'a dit. Si vous êtes dans les critères d'âge, on l'a dit aussi. Si vous êtes motivé, parce que mine de rien, bah, faut avoir envie aussi d'intégrer un groupe qui sera quand même ravi de vous accueillir. Et puis, on l'a pas dit que c'est une expérience humaine extraordinaire d'être pompier volontaire. Nous, ça a changé nos vies, je crois.
Oui, hein, ouais.
Ça a changé nos vies. Si on est là ici devant vous, c'est parce que voilà, parce qu'un jour, on a tapé à la porte de la caserne la plus proche de chez nous et parce qu'on a eu envie de se rendre utile. Donc voilà, ne pensez pas qu'il n'y a que des contraintes, ne pensez pas qu'il n'y a que beaucoup de formation, que non, c'est aussi et c'est surtout une expérience dingue, quoi. Donc rejoignez-nous, notamment si vous habitez à la campagne, on sera ravis de vous accueillir au sein de nos casernes et venez nous rencontrer, si je ne l'ai pas déjà dit. Demain, le 12 octobre, dans certaines casernes du département qui ouvrent leurs portes. Et pour les retrouver, ben, la page Facebook du SDIS, SDIS 37. Voilà, vous recherchez ça sur Facebook et vous trouverez toutes les infos qu'il faudra.
Exactement. Et alors, est-ce que vous voulez... Oui, Eric.
Alors, si certains ne sont pas disponibles demain matin, on passera chez vous en général en fin d'année.
Aussi, oui.
Voilà. Non, mais c'est surtout aussi l'occasion pour les sapeurs-pompiers de rencontrer la population et de discuter. C'est un moment opportun à la fois pour les sapeurs-pompiers, puis de poser des questions, on dirait, ne serait-ce sur l'organisation. On est, nous, intéressés, enfin, toujours vraiment motivés pour partager notre organisation, notre fonctionnement. Et puis, bah, effectivement, si possible, faire naître des nouvelles passions.
Est-ce que vous voulez nous parler un peu des autres événements que vous organisez prochainement ?
Alors, la fin de l'année est plutôt riche en événements chez les pompiers de manière générale. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de l'initiation aux gestes qui sauvent sur la commune de Marais dans le nord du département. Et ensuite, la période des Saintes-Barbes va commencer pour nous. Hein. Ce sera des cérémonies, des remises de galons, des avancements. Et là, toutes les casernes du département, sans exception, certaines le font ensemble, hein, donc c'est des dates communes à certaines, mais toutes les casernes proposent une cérémonie suivie généralement d'un vin d'honneur, verre de l'amitié. Et c'est l'occasion aussi, à ce moment-là, de venir rencontrer les pompiers en dehors de situations de crise, quoi, en dehors d'un accident, en dehors de tout ça, hein, parce que faire le 18 et appeler pour un accident de la circulation, on en parlait tout à l'heure, bah, c'est bien de voir les pompiers à cette occasion, mais c'est quand même mieux de venir discuter avec eux dans les casernes, au calme, au chaud, et après s'être mis au garde à vous.
Bien joué. Alors, merci à vous deux. Pour finir, j'aurais peut-être une dernière question. Bon, après, vous avez le choix, répondre ou non, c'est votre choix, mais quel est l'un de vos souvenirs plus marquant en intervention, un truc qui vous a fait chaud au cœur ou qui vous a...
Alors, j'ai toujours du mal comme ça à me remémorer.
Le souvenir le plus... Alors, ce dont on se souvient, c'est un peu des fois des choses dramatiques et surtout ce dont on se souvient, alors c'est horrible, hein, les pompiers adorent, se réjouissent qu'il se passe des choses, tout ça. Mais c'est vrai, mon souvenir le plus dingue, je crois que c'était mon premier feu. C'est-à-dire que, alors c'est horrible, on est d'accord, donc c'était dans une entreprise qui fabriquait des lubrifiants, pareil. Beaucoup moins grave qu'à Rouen, attention. Hein. Mais ce dont je me souviens, c'est pas dans des flammes que j'ai vues, etc., mais c'est de ce qu'on était capable de faire ensemble. Moi, c'était la première fois, j'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure, et je venais d'apprendre ce que c'était qu'être pompier volontaire. Alors, il fallait que je prenne combien de tuyaux, je ne savais plus, mais c'est pas grave si je ne savais plus, parce qu'il y avait un copain qui était à côté pour me dire, vas-y, prends en deux, on y va. Et c'est ça dont je me souviens, c'est de l'équipe et c'est de cette on dit une famille de pompiers, c'est pas ça, c'est vraiment de ce qu'on est capable de faire ensemble. Oui. C'est incroyable.
On est toujours accompagné, voilà, il y a jamais de moment où on se retrouve vraiment seul et on peut compter sur les autres.
Et moi, je n'ai jamais eu la chance, j'aurais pu vous dire, oh là là, un accouchement, j'ai jamais eu la chance d'en faire. Peut-être que vous en avez fait, commandant, vous ?
Non.
Non plus. Bon, bah voilà, on est les malchanceux du SDIS.
Et vous, Eric, vous avez un un événement marquant un peu ?
Alors oui, j'en ai un autre qui me revient en tête, où je me suis fait tirer dessus. Donc ça, c'est un événement.
Ça fait... Oui, bah oui, c'est marquant.
Donc c'est marquant. Donc effectivement, c'est en même temps de faire ressortir que les sapeurs-pompiers sont de plus en plus victimes d'agressions. Et donc, bon, c'est un coup de fusil en l'air, histoire que la personne ne nous a pas tiré dessus directement. Mais effectivement, ça nous interpelle. Et bon, la police est intervenue très rapidement et l'affaire s'était réglée. Il n'y a pas eu de blessés. Mais c'est vrai que les sapeurs-pompiers sont de plus en plus agressés. En fait, en général, c'est par les victimes qu'on vient nous-mêmes secourir. Donc c'est un peu une ambiguïté qu'on a sur on veut se rendre utile. Et puis bah, maintenant, on se rend compte que les sapeurs-pompiers sont de plus en plus mis en situation, alors, sans aller jusqu'au guet-apens, mais dans certains quartiers, ça peut se rencontrer, où maintenant, on apprend nous-mêmes à se protéger, d'avoir des techniques un peu d'intervention pour faire face. Alors ça peut être déjà la discussion, puisque, et puis sinon, bah, c'est le repli si nécessaire. Donc on travaille aussi en commun avec les forces de l'ordre pour gérer ce genre de situation.
Mais quel point... sauver celui qui ne veut pas quelque part.
Oui, voilà. Donc on va pas forcer les gens à aller à l'hôpital. Donc mais des fois il y a quand il nuit à quelqu'un, effectivement, s'il présente un danger pour quelqu'un d'autre, oui. À un moment, avec les forces de l'ordre, puisque ça fait pas partie d'une mission directe, tant que la personne n'est pas blessée, mais on faut contribuer nous à l'action, à la mise en sécurité de l'ensemble des personnes exposées.
Bien sûr. Merci beaucoup à vous deux d'être venus sur notre plateau.
Merci à vous de nous avoir accueillis et pour votre bienveillance à notre égard. Merci beaucoup.
Et puis on vous dit au 12 octobre.
Exactement, rendez-vous et demain et le 12 octobre pour les prochaines échéances.
Super, merci. Au revoir.
Merci à vous, au revoir.
Merci. On va partir du coup sur une petite musique très rapide que Alexandre aime bien avec le petit Kendrick Lamar avec Money Trees. On est parti et ça va être le feu. C'est l'heure de votre agenda dans Sortez. On commence tout de suite par un petit rappel du week-end La Saugrenue qui aura lieu à partir de ce soir au 37e parallèle à Tours à partir de 19h. Du coup, pour plus d'infos, suivre le site de La Saugrenue. Événement pour commencer notre agenda directement du coup maintenant à un concert de musique grecque organisé par Fadi Zakar. Vous pourrez écouter le groupe Klos, c'est des chants et des musiques de Crète et d'Asie mineure. Et ce soir à la salle Hockey Game, place Châteauneuf à Tours à 20h30. Et c'est au profit de leurs écoles en Afghanistan. Donc plus d'infos sur leur site www.fadizakar.com. Pour tous les amateurs, les confirmés ou les pros d'échecs, le maître international Benjamin Bugichot vient pour vous défier seul contre tous, en 10 parties simultanées. Pour les plus timides, rassurez-vous, pas de souci, un espace réservé pour les parties d'initiation ou les 1 contre 1 est réservé. C'est ce soir de 18h30 à 23h à l'Ibis Tour Centre Gare, 1 rue Maurice Genest à Tours. Je ne cesse d'en parler, mais nous revoilà à Poudlard pour les soirées de rentrée à l'école des sorciers. Répartition des maisons au hasard dès l'entrée, ce sera par groupe de 3 maximum. Au programme, Quidditch Pong, quiz pour faire gagner des points à votre maison, stand photo pour se remémorer la soirée. Et attention, samedi soir, bal des sorciers, déguisement de rigueur, il vous organise un petit concours de déguisement à la fin avec un lot à gagner. C'est donc ce soir et demain, donc vendredi 11 et samedi 12, de 18h à minuit, au Meltdown de Tours, 16 rue de la Longue Échelle. Le temps humide, froid et gris vous mine, pas de problème, la guinguette tropicale éphémère est là pour sa 6e saison. Elle viendra vous réchauffer avec leur musique endiablée. Elles sont de retour avec DJ Coco et DJ Coco pour vous rappeler l'été et vous faire danser comme jamais. Alors rendez-vous ce soir de 21h à 1h30 au bar Le Petit Soleil, ça aide pour une soirée chaleur, 18 rue du Petit Soleil. Et si vous transpirez pas la joie après ça, on peut plus rien pour vous, je suis désolée. Et du coup, c'est évidemment à Tours. Il ne reste plus pour moi de vous souhaiter une bonne soirée, un bon week-end, de bien vous amuser et de vous rappeler aussi que cette émission sera en podcast et en rediffusion lundi de 6h à 7h. Et puis, il me laisse à vous dire au revoir sur une musique du coup du groupe Pyramide et qui s'appelle Astral.
Campus Tour 99.5
et sur internet radiocampustour.com.